les chroniques Road Movies au FIC du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some only free off for the war.
Et sur radiogrenouille.com.
Beaucoup de road movies mettent en scène un adulte et un enfant qui se déplacent donc dans un véhicule avec souvent une inversion partielle ou totale des rôles. On peut citer plusieurs exemples. Par exemple, le film La Barbe à Papa de Bogdanovich, film 1973. Alors Bogdanovich, c'est un cinéaste qui est venu de la critique. C'est d'abord un critique de cinéma. Il est ami avec beaucoup de grands réalisateurs américains des années 50, 60, etc. Et en fait, La Barbe à Papa est un film très influencé par les maîtres, justement. On a parlé de maniérisme à partir de ce film et à propos du style de Bogdanovich. Et bon, outre les qualités plastiques évidentes de La Barbe à Papa, avec une très belle photographie en noir et blanc, il y a effectivement dans ce film une interrogation sur la filiation et sur l'inversion partielle des rôles entre l'adulte et l'enfant, l'enfant devenant l'adulte et l'adulte ayant des comportements infantiles. On le retrouve, ce thème de l'inversion, dans deux films de Clint Eastwood, un film de 1982, Honky Tonk Man, et un film de 1993, Un Monde Parfait. Et dans Un Monde Parfait, il y a aussi la dialectique d'ailleurs entre, mais qui est liée aussi aux adultes et aux enfants, hein, entre le désenchantement et le réenchantement. Alors le désenchantement, c'est la crise du rêve américain, l'immaturité et la violence des adultes, notamment de Butch, hein, le personnage principal. Et le réenchantement, en fait, c'est la manière dont Butch essaie de faire en sorte que le petit Philippe puisse accéder et vivre des rêves d'enfant. Notamment, il y a une scène où il lui dit « tu as droit au manège » et il le met sur le toit de la voiture et il fait comme si c'était finalement un manège. Cette dialectique du désenchantement et du réenchantement, on la retrouve aussi dans un film japonais de 1999, un film écrit, réalisé et interprété par Takeshi Kitano, qui s'appelle « L'été de Kikujiro ». Alors, L'été de Kikujiro, c'est un film très connu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le cinéma dans ce film est moins une représentation du réel par des images qu'une méditation sur le pouvoir qu'ont les images elles-mêmes de contaminer le réel. C'est un film donc qui vaut beaucoup par son style, même s'il possède, comme la plupart des films, un fond thématique. Le fond thématique de ce film, ça serait la quête de la mère absente et puis la quête des moyens de surmonter la déception, globalement, hein, et le désenchantement, justement. Alors le personnage qui est interprété par Kitano, qui est au départ un personnage très bourru et très désagréable, il va en fait mettre en scène la réalité autour de l'enfant, autour de Masao, le petit garçon, pour justement essayer de réenchanter le monde. Donc il y a ici vraiment une mise en abîme de la figure du réalisateur, puisque Kitano est à la fois l'acteur et le réalisateur du film, et puis dans le film il joue quelqu'un qui finalement fabrique une réalité factice pour la donner à voir et à vivre par Masao. Et là on a vraiment cette idée d'une capacité qu'aurait le cinéma à réenchanter la réalité, y compris quand elle est la plus banale, la plus déceptive, et ça c'est un pouvoir aussi qu'on a souvent vu dans le road movie, qui est un genre comme ça de transfiguration du banal. Alors, une des questions que soulève le film, finalement, c'est comment combler un vide. On pourrait dire qu'une des questions au centre du film, c'est ça. Comment combler un vide affectif, puisqu'encore une fois, c'est l'histoire d'un enfant délaissé par sa mère, mais aussi un vide visuel. Il y a pas mal de moments du film où Masao est filmé seul, dans un espace assez vide. À un moment, par exemple, il est vu en plongée, seul au milieu d'un terrain de football. Et bon, évidemment, là, sa solitude et le vide sont accentués par l'angle de prise de vue. On sait aussi qu'une présence peut renvoyer une absence, une présence peut renvoyer un vide. Je cite la célèbre pensée de Pascal, la pensée numéro 243 dans l'édition Folio Gallimard. Un portrait porte absence et présence, plaisir et déplaisir. Fin de citation. Quand on regarde le portrait de quelqu'un, il y a le plaisir de voir son image, mais il y a aussi le déplaisir de savoir que ce n'est qu'une image et que la personne elle-même est absente. Et justement, dans le film de Kitano, c'est en trouvant des photos de famille que le petit garçon, Masao, décide de s'enfuir à la recherche de sa mère. Parce que finalement, sa mère, on se rend compte qu'il ne la connaît justement qu'en photo, qu'en image. Sa mère est une image. Et le film de Kitano va être lui-même structuré comme un album de photos d'ailleurs, avec un accent mis sur l'artificialité, sur le chapitrage, donc sur des procédés énonciatifs.
Daruma-san ga koronda. Daruma-san ga koronda. Ah, deme no oji-chan.
Dare?
Dare to debu, omae shika inai janai ka kono ero, omae. Omae, nani nani nani? Debu.
Daruma-san ga koronda.
On sait que Bazin opposait les cinéastes qui croient en l'image et les cinéastes qui croient en la réalité. Et bien ici, on voit que Kitano croit tellement à l'image qu'il nous montre comment les images contaminent la réalité elle-même. D'une certaine manière, dans le film, tout est image, rien n'est réel et tout n'est que point de vue et interprétation. Il y a même un plan d'ailleurs qui est filmé à travers la vision qu'en aurait une libellule. Hein. Donc là, il y a vraiment un travail très poussé et très ludique aussi d'ailleurs sur le point de vue. Kitano, il joue aussi sur les échelles de plans. En général, dans la grammaire cinématographique classique, une scène d'action est filmée en plan moyen pour qu'on voit juste ce qu'il y a à voir. Alors qu'ici, par exemple, il filme une bagarre de très très loin, en plan très large, et en fait, on ne voit presque rien. Donc là aussi, la question du point de vue est tout à fait accentuée dans le film. Ça peut être aussi un mouvement de caméra qui relève de la relativité des points de vue. Par exemple, il y a une scène où il s'amuse sur une pelouse, et puis il y a un travelling arrière qui révèle un panneau pelouse interdite, qu'on n'avait pas du tout vu, évidemment. Alors parfois, c'est aussi dans les rêves que les images s'animent et qu'elles font l'objet de variations. Il y a beaucoup de séquences oniriques dans le film, notamment à un moment, par exemple, le tatouage qui est visible sur le dos du personnage joué par Kitano, eh bien, il s'anime. Et le tatouage lui-même, donc l'image, devient un être vivant. On peut penser aussi à la figure de l'ange, du petit ange à clochette, qui apparaît dès le générique, qui est en image d'animation, et puis qu'on va retrouver aussi tout au long du film, qui va en quelque sorte s'incarner, se matérialiser. Comme dans beaucoup de road movie aussi, il y a une dimension picaresque. Hein. Le film est basé aussi sur des séquences comme ça, faites structurées autour de différentes rencontres. Et à la fin du film, en fait, ces différentes rencontres vont un petit peu s'agréger avec la constitution d'une sorte de communauté improvisée au bord d'un lac. Avec donc Kikujiro, le personnage joué par Kitano, le petit garçon Masao, un poète errant qui conduit un combi qu'ils ont croisé plusieurs fois. Et puis deux bikers assez improbables qui ont un look de Los Angeles, mais qui ont le personnage plutôt clownesque, personnage burlesque, puéril. Et en fait, tous ces personnages vont régresser ensemble vers l'enfance, justement. Ils vont jouer à croire qu'on est... Alors, ils vont jouer à être un poisson, ils vont jouer à être un poulpe, un extraterrestre ou même une pastèque. Et tout ça, en fait, est fait pour amuser Masao et pour, encore une fois, l'aider à dépasser la déception initiale. La question qui est intéressante à poser, c'est de savoir si Masao y croit, en fait. Est-ce que Masao y croit ou pas à toutes ces mascarades et ces mises en scène? Mais en fait, ce qui est intéressant, sans doute, c'est qu'on pourrait dire qu'il y croit autant qu'un spectateur, nous en l'occurrence, autant qu'un spectateur croit en l'histoire qu'un cinéaste lui raconte. Finalement, quand on voit un film, bien sûr, on n'y croit pas. On sait que c'est du cinéma, on sait que c'est fabriqué. À la fois, on y croit totalement. Mais Masao, on a l'impression qu'il est un peu dans cette même relation. À la fois, il sait que c'est faux et à la fois, il y croit totalement. Magie du cinéma. La magie du cinéma, elle s'incarne aussi dans le film par sa musique. La musique du film a été composée par Joe Hisaishi, très célèbre compositeur de musique, et c'est justement quelqu'un qui a aussi composé la musique, et ce n'est sans doute pas un hasard, des films d'animation réalisés par Hayao Miyazaki.
Les chroniques road movie zoophiles du professeur Rosmini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some way free off for the war.
Et sur radiogrenou.com.